France Culture.
Lundi midi, orthophoniste, de 12h30 à 13h30, et elle déjeune dans la voiture. Mercredi matin, orthophoniste, de 11h à 11h30. Jeudi matin, orthophoniste, de 9h à 9h30. Jeudi sur deux, neuropsychologue, de 11h45. Vendredi matin, ergothérapeute, de 9h30 à 10h15. Et un mercredi par mois, psychologue, de 15h30 à 16h. Il va falloir qu'on arrête, parce qu'il va falloir aller chercher Esther à l'école et que je prépare son repas.
C'est de l'anticipation, c'est qu'il fallait faire à manger le dimanche soir pour avoir à manger le lundi midi. J'allais chercher Pierre, il fallait que je sois à midi à l'école. 11h moins 10, il faut que je débauche. Midi, je suis à l'école. 12h30, je suis chez l'orthophoniste. 13h, je récupère Pierre. Je repars à mon bureau, je fais manger, je le presse. Et à 13h45, il faut repartir parce qu'à 14h, la grille de l'école ferme. Et après, donc, le jeudi, après-midi, ben, c'est pareil. 15h15, je m'arrête. 15h30, je suis à l'école, chez l'orthophoniste, et jusqu'à 16h, 16h10. Puis après, l'année dernière, on avait rajouté l'orthopédagogue, où là, c'était tous les mardis matins. Il fallait qu'on parte d'ici à 7h, il fallait qu'on aille sur Usine. Donc, ça faisait 45 minutes de route le matin avec des embouteillages, pour être à 8h chez l'orthopédagogue jusqu'à 9h. Et après, je redéposais Pierre. 45 à l'école.
Trouble 10, des vies à inventer. Une série documentaire d'Elvire Cassan, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
Donc oui, c'est une organisation en cordeau.
Épisode 2, l'accès aux soins, une course de fond. Moi aussi, je connais les emplois du temps fragmentés. Les dossiers à remplir, les heures dans les salles d'attente, les rendez-vous en cascade. Moi aussi, comme 82% des mères, selon une étude de la Fédération française des 10, je porte le parcours de soins de mon enfant multi-10. Mais pourquoi encore et toujours en 2025, je croise si peu d'hommes dans les salles d'attente? Sûrement parce que la représentation du rôle des femmes dans notre société continue d'associer le soin, l'organisation et l'anticipation à la maternité, comme s'il s'agissait d'une évidence naturelle, plutôt que d'un choix social, économique et politique. Sûrement à cause des inégalités salariales, parce que les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent. En France, les femmes gagnent en moyenne près de 24% de moins que les hommes. Alors quand il faut s'absenter, courir de rendez-vous en rendez-vous et réduire son temps de travail, c'est plus souvent la mère qui s'efface. Et c'est tout le temps, c'est incessant, c'est vivre essoufflé.
Je m'appelle Céline, je suis la maman d'Esther qui a 9 ans. Esther, elle a plusieurs troubles, elle a des troubles 10. Donc elle a une dyslexie, dysorthographie, une dyscalculie et elle a aussi un TDAH. Trouble de l'attention avec hyperactivité et Esther, c'est un TDAH à dominante inattentive. Donc elle a beaucoup de mal à se concentrer.
À quel âge elle a son premier diagnostic?
À la fin du CP, elle a fait un premier bilan chez l'orthophoniste qui a conclu à des difficultés en langage écrit. Et le vrai diagnostic de dyslexie, il a eu lieu quelques mois après, en fait, quand il y a eu le bilan complémentaire. Il a fallu attendre plusieurs mois pour voir que les troubles étaient toujours présents, enfin voilà, continuer d'être là et d'embêter Esther. Et donc là est tombé le diagnostic de dyslexie, dysorthographie sévère.
Ça l'embête beaucoup?
Oui. Le plus flagrant, ça va être le fait qu'elle n'arrive pas à lire, quoi. Elle n'est par exemple pas autonome dans ses devoirs, que ce soit à la maison ou à l'école. Elle ne peut pas lire la consigne d'un exercice. Elle ne peut pas lire une poésie, c'est-à-dire que pour apprendre une poésie, il faut qu'on soit là pour lui lire le texte.
Et elle arrive à l'apprendre, si vous voulez.
Elle arrive à l'apprendre, tout à fait, voilà. Mais elle est dépendante d'un tiers, forcément. Et au-delà de l'école, ça va être... sur certains jeux de société, faire équipe avec elle ou adapter les règles, parce que voilà, elle peut pas lire les cartes. Ça va être au restaurant, lui lire le menu. La dernière fois, on regardait Ponyo sur la falaise avec sa grande sœur, et il y avait une chanson en japonais, donc sous-titrée en français. Et spontanément, sa grande sœur lui a lu, en fait, les sous-titres. Parce que voilà, Esther, elle rate des informations comme ça. Moi, je suis bibliothécaire, donc dans sa chambre, il y a une énorme bibliothèque avec plein de livres. Et depuis toute petite, on lui lit des livres. Dans notre famille, il n'y avait personne qui avait des troubles 10. Roxane, la grande sœur d'Esther, a appris à lire normalement, facilement, voilà. Et Esther, voilà, c'est tombé comme ça. Alors après, quand il y a eu l'annonce du diagnostic, j'étais pas étonnée parce que on a vu dans les premiers mois du CP qu'elle n'y arrivait pas, qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Et honnêtement, moi, je me disais, à part un trouble 10, je vois pas ce qui peut l'empêcher autant d'apprendre à lire. À Noël, en fait, elle ne savait pas lire, mais elle avait encore le temps, mais elle n'en était même pas au déchiffrage. Et elle a toutes ses capacités intellectuelles, elle est même très vive, très intéressée par tout, très curieuse. Voilà, un milieu socio-culturel favorisé. Hormis un trouble 10, je ne voyais vraiment pas ce qui pouvait l'empêcher d'apprendre à lire. Certains autour de nous ont évoqué un blocage psychologique. Alors je m'étais dit, pourquoi pas, peut-être. Mais je me disais quand même qu'il fallait que ça soit un sacré blocage pour que ses difficultés en lecture soient telles.
Je m'appelle Marianne Baudin et je suis la maman de Louise et Pierre. Pierre qui est multidys. Ce sont des jumeaux, ils ont 10 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand il était en moyenne section et c'était la période du confinement. Et pendant le confinement, en faisant les petits ateliers qu'envoyaient les maîtres et les maîtresses, je voyais que Pierre faisait pas exactement la même chose que Louise, que les lettres, ça ne l'intéressait absolument pas. Il avait beaucoup de mal à compter, il manquait toujours un chiffre dans la chaîne numérique. Et puis, quand on a été déconfinés, j'en ai informé la maîtresse qui m'a dit que c'était sûrement un problème de maturité, que c'était un petit garçon qui rêvait beaucoup. Et puis, la grande section... J'ai alerté un petit peu la maîtresse en lui disant que c'était un peu compliqué de compter. Malgré ça, je voyais que Louise, elle écrivait bien. Elle commençait à faire des lettres cursives, elle faisait des lignes. Elle commençait à écrire des majuscules. Et je voyais qu'il y avait un décalage. Mais après, ça restait un petit garçon hyper joyeux, qui s'intéressait à beaucoup de choses, avec un vocabulaire très, très riche. Donc voilà, on ne s'est pas inquiété plus que ça. Il était entré en CP et j'ai laissé passer les 3 premières semaines et j'ai vite pris rendez-vous avec le maître pour lui expliquer que Pierre avait un petit peu de retard en grande section, qu'il fallait quand même qu'il soit vigilant, que sur les premières semaines, j'avais vu qu'au niveau des devoirs, c'était compliqué, qu'on mettait énormément de temps. Donc, je passais une demi-heure à faire une demi-heure de devoirs pour un CP, alors que Louise en passait 10 minutes. Et avec des cris, moi, je comprenais pas pourquoi ça allait si lentement. Je me suis pas posé de questions, en fait. Je me suis dit, en fait, il a pas envie de travailler. Donc j'ai pris rendez-vous avec le maître qui m'a dit j'ai appris que vous étiez séparés, peut-être que c'est votre divorce, peut-être que c'est à cause de ce qui se passe à la maison. Je dis mais en fait à la maison tout va bien en fait. Il dit oui mais peut-être que il faudrait le faire suivre par un psychologue. Et donc voilà parti chez le psychologue. Donc là de mars jusque début mai, il est suivi et au bout de 5-6 séances, donc elle me voit moi, elle me voit le papa. Elle interroge Pierre et puis là, elle me dit, mais en fait, votre fils, il va bien, en fait. C'est juste qu'en fait, il a complètement décroché à l'école. Et puis, comme ça bouge pas trop, je reprends rendez-vous avec l'enseignant. Donc, je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pensez que je dois prendre rendez-vous chez un orthophoniste, que je dois faire un bilan? On m'a dit que ça pouvait traumatiser les enfants, je sais pas quoi faire. Et en fait, le maître, en fait, savait pas trop.
Vous aviez pensé à la dyslexie ou non?
Pas du tout.
Pourquoi l'orthophoniste, alors?
Creusage.
Parce que je me suis dit, s'il y a du retard, moi, ce que j'arrive pas à faire à la maison,
coulage.
Peut-être qu'elle va pouvoir, elle, au moins, débloquer quelque chose.
Trahisseuse.
Il fallait que ça se débloque, mais.
Carabée.
Parce que moi, j'y arrivais pas.
Bougeage.
Brinquant.
Radinance.
Émouvrance.
Chien, niche,
dibon, bidon,
singe, signe,
linge, ligne,
doire, boire,
dessert, désert,
enfant, enfant.
Je me dis que ça va aller, on va faire la rééducation et puis on va débloquer le problème et puis ça va rouler. Je me dis qu'à fin de CP, ça va être réglé.
Souvent, soit le parent repère qu'il y a des petites choses comme ça qui sont difficiles chez son enfant.
Sarah Di Giovanni.
Un retard de développement du langage oral ou des difficultés pour comprendre.
Présidente de la Fédération nationale des orthophonistes.
Donc le parent peut identifier comme ça des éléments et se dire ah mince, mais peut-être c'était pas comme ça pour mon aîné, c'est un peu différent, comparé avec les cousins. Et parfois il y a des sentiments de se dire ah mais là, j'ai l'impression que ça ne devrait pas se passer comme ça. Soit c'est l'enseignant. Souvent, c'est les enseignants qui vont se rendre compte qu'il y a une petite spécificité ou une grande spécificité au niveau du langage oral. Donc là, on parle des enseignants de maternelle qui vont alerter les parents. Et donc là, le processus, on va dire classique, c'est que, alors, généralement, ils vont en parler au médecin traitant. Et puis ensuite, l'orthophoniste va recevoir l'enfant avec ses parents pour faire un bilan, pour faire une évaluation, en fait, des compétences de langage, orale, écrite de l'enfant. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir soit poser un diagnostic, soit orienter vers des examens complémentaires. Un test d'audiométrie, par exemple, chez l'ORL, ça peut être des examens chez un neuropsychologue, ça peut être une consultation avec un orthoptiste, avec un psychomotricien, pour consolider la connaissance qu'on a de cet enfant et pouvoir affiner le diagnostic ou affiner l'hypothèse diagnostique qu'on a pu poser à ce moment-là.
Flexibilité lexicale,
aspect morphosyntaxique,
mémoire auditivo-verbale,
leximétrie,
inférence, score,
lecture de logatome, score,
mémoire de travail
temps.
Visuel.
Mémoire auditivo-verbale.
Empan auditif en droit.
Test de la figure de Rey.
Empan auditif en vert.
Décodage.
Capacité visio-constructive en 2D.
Assemblage ou adressage.
Repérage d'anaphore. Score. Temps.
Je suis Florence Rampin. J'ai 44 ans. Je suis graphiste. Alors, je suis dyscalculique et j'ai une petite fille de 9 ans qui est triple 10. Donc, dyspraxique, dysorthographique et dysgraphique avec un trouble de l'attention. On nous a signalé assez rapidement que Jeanne avait des difficultés à acquérir le langage. Elle avait beaucoup d'otites. À un moment, on s'est demandé si elle n'avait pas un problème d'audition. Mais en tout cas, le langage est venu un peu tard et elle avait, je pense qu'elle s'énervait beaucoup. C'était une enfant qui avait beaucoup de frustration. Comme elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle s'énervait, elle pleurait beaucoup. C'était vraiment pas évident. Sa maternelle s'est mal passée. Je pense qu'elle avait une maîtresse qui a pas été extrêmement patiente avec les enfants qui avaient des frustrations. Et en fait, elle m'a juste dit, bon, vous devriez aller voir un orthophoniste ou quelque chose. Parce que Jeanne, c'est compliqué. Voilà. Et à la fin, j'en avais un peu marre parce que tous les soirs, Jeanne, c'est compliqué. Hein. Jeanne, aujourd'hui, ça a été compliqué.
À quel moment, monsieur le professeur, décèle-t-on cette inaptitude ?
Eh bien, à partir du moment où l'enfant commence à apprendre à lire, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 ans en général.
Archivina, 1970, professeur Pierre Debré-Ritzen.
Et nous avons le moyen de mesurer l'aptitude lexique d'un enfant. Il y a un test qui est remarquable, les Anglais ont le même, d'ailleurs, enfin en anglais, un test voisin en anglais, et qui permet de dire tel enfant de 10 ans et demi a en fait une lecture de 7 ans 8 mois. Très exactement. Or, quand vous avez une lecture de 7 ans, 8 mois, et que vous avez 10 ans et demi, eh bien, vous êtes un petit peu comme un enfant que l'on mettrait dans une course à pied avec des boulets aux jambes. Car on a dans une classe l'âge de son intelligence, son âge réel, mais surtout et avant tout, l'âge de sa lecture.
Franck Ramu, à partir de quel âge on dépiste la dyslexie ?
Alors, comme la dyslexie s'est définie comme un trouble de l'apprentissage de la lecture, on ne peut le dépister, le diagnostiquer qu'à partir du moment où l'enfant est vraiment rentré dans l'apprentissage de la lecture. Donc c'est déjà minimum à partir du CP, pas avant. Après, comme on veut éviter de faire des diagnostics qui pourraient être des faux diagnostics, des faux positifs, parce que un enfant, bah, il peut être en retard d'apprentissage de la lecture pour plein de raisons différentes autres que la dyslexie, donc il faut quand même être un peu prudent et éviter de se précipiter et faire des diagnostics trop tôt. On recommande de faire les diagnostics formels de dyslexie pas avant la moitié ou la fin du CE1, en fait. Donc après 18 mois d'enseignement de la lecture, si l'enfant il est toujours en grave difficulté, là on a un niveau de certitude plus fort qu'il est vraiment dyslexique et c'est pas juste d'autres causes temporaires, on va dire. Ce qu'on sait faire aujourd'hui déjà, c'est dès la maternelle, repérer les enfants qui ont des difficultés de langage oral, qui ont un faible vocabulaire, qui ont des difficultés de conscience phonologique. Et là, à partir de cet âge-là, vers 4 ans, là, on sait quoi faire. On sait développer leur vocabulaire, entraîner leur conscience phonologique. Et donc, on a des interventions possibles pour prévenir le risque de dyslexie.
Le cerveau de l'enfant est extraordinairement plastique.
Stanislas Dehaene, neuroscientifique.
Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Très concrètement, ça veut dire que les cellules nerveuses peuvent bouger, leurs arborescences se déplacent, les synapses se font et se défont. Et il y a une période vraiment d'exubérance de cette plasticité dans la petite enfance. Et puis, doucement, cette plasticité se referme, pas totalement, évidemment, on est encore capable d'apprentissage à l'adulte, mais ça dépend des circuits. Et dans les circuits visuels, qui sont essentiels pour la lecture, ça se ferme probablement aux alentours de la puberté, sans que ce soit une sentence de mort, c'est pas complètement figé, mais enfin, ça devient beaucoup plus difficile de faire bouger ce système. Alors, il faut absolument profiter de la petite enfance le plus tôt possible pour détecter les enfants qui risquent d'avoir des troubles 10 et puis pour intervenir le plus rapidement possible. Voilà. Cette plasticité, elle est à la fois extraordinaire, c'est un avantage extrêmement précieux, mais voilà, c'est aussi une horloge qui est en train de faire tic-tac et il ne faut pas arriver trop tard.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur du cabinet d'orthophonie de Madame Bossert et de Madame Sauzet. Merci de laisser un message en donnant les noms et prénoms de votre enfant.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marine Kinov, orthophonie. Je ne suis pas disponible pour le moment. Si vous appelez pour réaliser un bilan, envoyez-moi un texto en précisant bien votre demande, les difficultés, si c'est pour vous ou votre enfant, afin que je puisse vous inscrire sur la liste d'attente.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laura Carillo, orthophoniste. L'horaire étant malheureusement complet, vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente sur le site Perfactive.
Bonjour, Céline Grinter, orthophoniste à Précis-sur-Web. Actuellement, je n'ai plus aucune place disponible pour prendre de nouveaux patients. Je vous conseille de vous rendre sur le site alloorto.com.
Bonjour, vous êtes bien au cabinet d'orthophonie de Laura Mzella. Le cabinet est malheureusement saturé de demandes et je ne prends plus personne, même sur liste d'attente. J'en suis désolée et je vous souhaite une bonne recherche.
Combien de temps ça vous prend pour avoir un rendez-vous? Vous appelez combien d'orthophonistes? Ça prend...
C'est démentiel. C'est orthophonie, je pense que au final j'ai fait le bilan, mais elle n'était pas dispo pour un suivi. Donc après, je me suis inscrite sur des listes d'attente à peu près partout. L'orthophoniste, ça a été le plus compliqué. Ça, j'ai dû attendre 3-4 mois avant de trouver, et encore en forçant, hein, vraiment, parce que je me décourage pas et que j'appelle partout, que je suis en liste d'attente partout.
Pour trouver un orthophoniste après le confinement, ça a été, je pense que j'ai dû en faire une vingtaine. Ensuite, j'ai étendu jusqu'à Bordeaux, donc en me disant, je suis prête à faire 30, 35, 40 minutes de route pour aller voir un orthophoniste. Déjà, rien qu'avoir un bilan, je ne pensais même pas au suivi, hein. C'était juste le bilan. J'ai passé des journées entières à appeler hein, et à supplier les gens. M'a fallu un mois, je pense, pour arriver à décrocher le bilan. Et puis, plus l'attente avant d'avoir le rendez-vous.
Mais, et si vous avez eu combien d'attentes?
Je pense que j'ai dû appeler fin octobre et j'ai dû avoir un rendez-vous début décembre.
Alors, l'accès est dramatiquement difficile. On tire vraiment la sonnette d'alarme parce que ça fait même de nombreuses années qu'on alerte les décideurs sur cette situation qui est absolument dramatique. Évidemment, les décideurs là se succèdent. On a vu 8 ministres de la Santé en 3 ans. Mais ils ont tous parfaitement conscience, à chaque fois qu'on leur parle, ils ont conscience du déficit d'orthophonistes. On a vraiment des délais d'attente qui sont variables selon les territoires, sont un peu variables, mais en réalité sont très longs partout. Dans les territoires vraiment les mieux dotés, on va être en dessous d'un an d'attente, mais pas bien en dessous. Pour un bilan. On sait que 90% des orthophonistes ne sont pas en capacité de donner une date de bilan au moment où ils reçoivent un appel, une nouvelle demande. On peut aller jusqu'à 2, voire 3 ans dans certains territoires. Attendre 3 ans pour un bilan orthophonique... On a une perte de chance qui est dramatique pour les enfants, parfois une suraggravation des troubles ou des troubles associés qui viennent se greffer parce que il faut bien imaginer qu'un enfant qui souffre d'un trouble développemental du langage oral, c'est un enfant qui a du mal à comprendre les consignes, c'est un enfant qui a du mal à mémoriser, que ce soit les comptines en maternelle, les poésies en primaire, c'est un enfant qui a du mal à raconter, à faire un récit, c'est un enfant qui a du mal ensuite à s'emparer du langage écrit, à lire, qui a besoin de plus de temps. Et donc, c'est un enfant, si son trouble n'est pas identifié, qui va se faire réprimander à longueur de journée parce qu'il n'y arrive pas, qui va être jour après jour en difficulté, à la maison pour faire ses devoirs, à l'école pour tout ce qui a trait aux apprentissages. Et donc, ce sont des enfants qui vont être à risque de perte d'estime de soi, voire de dépression, parce qu'ils sont constamment d'abord dans un épuisement, une fatigabilité très très intense, puisqu'ils ont une surcharge cognitive permanente, et en plus qui est, n'est pas récompensée et qui est traitée par certains adultes, tant que le diagnostic n'est pas posé, comme éventuellement de la fainéantise ou comme éventuellement des enfants qui ne font pas suffisamment d'efforts. Et donc le temps d'attente est particulièrement dramatique pour ces enfants-là. C'est très fréquent qu'on reçoive des appels. Alors, c'est souvent des mamans qui nous appellent, en fait, qui sont en pleurs au téléphone. Hein. Enfin, ça nous arrive très fréquemment, des mamans qui attendent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. En revanche, normalement, financièrement, il n'y a pas de problématique d'accès. On constate que quelques orthophonistes commencent à faire un peu de dépassement d'honoraires, mais ça reste encore vraiment très, très rare. Et il n'y a quasiment aucune orthophoniste qui soit déconventionnée. Il n'y a pas de secteur 2 en orthophonie. Donc, le frein financier, normalement, il n'y en a pas.
On est loin ?
Non, on est bientôt arrivé.
Toutes les semaines, vous faites ces trajets ?
Toutes les semaines, on fait les trajets, ouais. Chez l'orthophoniste, 3 fois par semaine, le trajet. C'est à 15-20 minutes de chez nous, à peu près.
Et de l'école ?
Un quart d'heure, pareil.
Ça vous fait quitter combien de temps, finalement, le travail ?
Ça doit faire pas loin de 2 heures, en fait, le lundi midi. Le temps de préparer le repas, aller jusqu'à l'école, aller jusqu'à l'orthophoniste. La rééducation, c'est une demi-heure. Après, ramener Esther à l'école, attendre que le portail ouvre, la déposer et retourner travailler. Il y a plus de temps de logistique et d'attente que de séances de rééducation.
Et pour Esther, qu'est-ce qui est demandé comme bilan par l'orthophoniste ?
Alors après, l'orthophoniste demande à ce qu'on fasse un bilan. Je sais plus si à l'époque elle nous dit qu'elle soupçonne un TDAH ou pas, ça je m'en rappelle plus. Donc on prend rendez-vous avec une neuropsychologue. Les mois passent.
Ça met combien de temps ?
Maximum 6 mois, on a de la chance à peu près, c'est pas si long que ça. Elle a 3 rendez-vous, je crois que c'est mon compagnon qui a été. 3 rendez-vous et 1/4 pour la restitution du bilan. Et donc là tombe le diagnostic de TDAH. Et là, j'étais pas prête. Autant la dyslexie, je m'en doutais. Les mois passants, je me doutais. Je savais même déjà qu'il y avait une dyslexie. Le TDAH, je m'y attendais pas. Là, j'ai pris conscience que déjà, elle avait plusieurs troubles et que ça n'allait pas passer tout seul.
On est dans quelle ville, là ?
Là, on est à Bretteville-sur-Odon.
À combien de kilomètres de Caen ?
Je me rends pas compte. 10, 15 ?
Après, le médecin scolaire nous demande de faire un bilan en cognition mathématique. Esther, elle passe ce test en avril, je crois. Elle est en CE1, ouais, c'est ça. Et là, c'est pareil, dans le bilan, c'est marqué Esther semblerait présenter un trouble des apprentissages mathématiques. Et que de la rééducation serait nécessaire, mais qu'on privilégie la rééducation en langage écrit. Donc que pour l'instant, il n'y aura pas de rééducation en cognition mathématique.
Alors Esther, on commence par nos mots. Est-ce que tu peux écrire le mot « aussi » ? Et donc là, c'est parfait. Tu t'es corrigée toute seule sur le « haut ». C'était le « haut de gouffre ». C'est ça, impeccable. Donc là, ça c'est un mot que tu a réussi 3 fois, donc tu vas pouvoir obtenir la gommette. C'est parfait. Est-ce que tu peux écrire poisson ?
Et vous, Marianne, comment ça se passe, la rééducation ?
C'est sur les horaires d'école, donc je suis obligée de sortir de l'école vers 15h45, quelque chose comme ça, donc juste après la récré, et je vais le chercher, et du coup, je quitte mon boulot, je m'arrête plus tôt, et je l'amène à sa rééducation. J'attends dans la voiture, je travaille, je passe mes coups de fil, je continue un peu de travailler. Mais bon, voilà, à 16h15, il y a Louise qui sort de l'école, donc j'en profite pour aller la chercher. Au final, la journée, elle est vite terminée. Enfin, voilà. Donc en général, c'est la journée où je termine tôt et où je rallume le soir quand tout est terminé à la maison. Et le CM arrive et donc là je me dis ouf, il sait lire, ça va aller. Et puis là, la maîtresse me convoque, elle me dit les maths c'est très compliqué, peut-être faites un bilan.
Donc
l'orthophoniste qui le suivait me dit pas de souci, elle me dit je vais faire un bilan logico-mathématique qui met en évidence des troubles, ce qu'ils appellent les TAM, troubles des apprentissages et des mathématiques. Donc là, il y a une demi-heure qui se rajoute en plus dans la semaine, où là, en plus du jeudi, entre midi et deux le lundi, je dois aller le chercher, l'amener à sa rééducation, le faire manger, le ramener à l'école. Alors, c'est resté comme ça pendant 2 ans. Et puis, l'année dernière, j'ai craqué et je lui ai dit, c'est plus possible, j'arrive plus à suivre. J'arrive plus à suivre, j'ai trop de boulot, le rythme est trop soutenu pour moi et il faut trouver une solution. Et elle le prend du coup maintenant 1 heure tous les jeudis après-midi, pareil sur le temps scolaire. Et elle fait 1 demi-heure de français, 1 demi-heure de mathématiques. CE1, donc on a diagnostiqué qu'il avait une dyscalculie, dysgraphie parce qu'il n'arrive pas donc à écrire correctement et il est très très lent quand il écrit, et dysorthographie parce qu'il a beaucoup de mal à retenir les mots de vocabulaire. On a vu une psychiatre aussi qui m'a confirmé un TDAH avec tous les bilans en fait qu'on avait fait, qui a vu Pierre pareil 3-4 fois. Ouais, mis tout bout à bout, c'est des journées qui sont compliquées. Heureusement, j'ai cette chance d'avoir des employeurs qui sont très compréhensifs et qui me laissent aussi m'organiser autour de l'emploi du temps de mon enfant. Donc, à partir du moment où le boulot est fait, j'ai jamais eu de remontrance. Et je me demande d'ailleurs comment font les mamans qui doivent être derrière un bureau de 8h à midi et de 14h à 18h. On n'aurait pas pu faire tout ce que j'ai fait pour Pierre.
Il y a un coût du temps, mais est-ce qu'il y a un coût financier aussi qui est important pour votre famille ?
Bien sûr, il y a eu... cette année, on ne fait plus que l'orthophoniste, mais les bilans, déjà rien que les bilans neuropsy, il y en a souvent pour 300-400 euros. Il n'y a pas de prise en charge, ou très peu. Ça va être peut-être 150 euros de la mutuelle, mais tout le reste, c'est de ma poche. J'ai rajouté l'orthopédagogue, qui était dans les 1 000-1 500 euros, je pense, sur l'année. On prend l'exemple du bilan psychomote, c'est pareil, c'est 400 euros.
Et c'est parfait, impeccable pour les deux S. Tu n'as pas oublié. Est-ce que tu peux écrire cadeau ? Alors, pour le cadeau, c'est le O le plus long. Tu te rappelles comment on l'écrit ? C'est super. Je te remets le modèle. Hop. Et je veux bien que tu me le réécrives en disant les lettres, s'il te plaît.
C'est...
Et vous, comment vous avez aménagé votre emploi du temps ? Comment est-ce que vous pouvez concilier une vie professionnelle ?
C'est pas facile. Au début, elle avait que le lundi midi. Donc, c'est mon compagnon qui l'emmenait sur le temps du midi. Et le mercredi matin, moi, je travaillais pas le mercredi. Et quand on a augmenté les séances, j'ai réduit mon temps de travail. Donc, depuis novembre 2024, je suis en congé de présence parentale. Ce qui permet de m'absenter de mon travail pour l'emmener, mais ça a des conséquences financières parce que ça se pose par demi-journée, et donc les demi-journées où je suis absente, je ne suis pas payée, et après j'ai une indemnisation par la CAF, mais qui couvre pas la perte de salaire. J'étais déjà à temps partiel, j'étais déjà à 90%. J'aurais pu réduire mon temps de travail, mais l'avantage du congé de présence parentale, c'est que c'est souple. Parce qu'à cet emploi du temps se rajoutent de temps en temps des rendez-vous chez la pédiatre qui la suit. Et par exemple, en janvier, elle a un rendez-vous le lundi matin, et je vais poser ce lundi matin en congé de présence parentale. Alors que si j'étais passée à 80 ou 70%, ça aurait été fixe. Moi, ça me permet d'être une plus grande souplesse.
L'orthophoniste nous dit, il faudrait faire un bilan psychomoteur et peut-être aussi un bilan orthoptiste. Donc là, je cherche une psychomotricienne, pareil, je cherche un rendez-vous, j'obtiens un rendez-vous, rebelote, j'ai mon enfant à côté de moi, je réexplique devant elle à la psychomotricienne que oh là là, c'est compliqué, hein, et on fait pareil sur l'orthoptiste. Et là, on n'a pas de diagnostic. Hein. Du coup, sur des périodes scolaires, elle a un rendez-vous orthophoniste, un rendez-vous orthoptiste, un rendez-vous psychomotricienne.
Donc elle doit sortir de classe ?
3 fois. Donc 3 fois, ça veut dire que c'est pas forcément à côté de chez nous. Moi, je suis freelance à ce moment-là. Sinon, c'est impossible. Ça devient un peu le grand écart de bosser. Et on vit sur Paris. On n'est pas dans un désert médical du tout. Donc comment font les gens qui sont dans un désert médical, qui doivent faire 1 heure de voiture et qui ont des travails qui ne permettent pas peut-être d'avoir cette disponibilité? C'est une vraie question. Enfin, moi, je me demande combien d'enfants aujourd'hui en France se retrouvent vraiment sur le carreau à cause de ça.
Évidemment que quand on a un enfant qui a besoin éventuellement d'une séance ou deux séances d'orthophonie, plus parfois d'autres soins également, c'est une organisation familiale qui est extrêmement compliquée. Le renoncement aux soins est très fréquent. On sait très bien que les personnes qui viennent d'un milieu socio-économique plus élevé ont davantage de chances de trouver un professionnel de santé. Ils ont plus de facilité à chercher, à s'orienter dans l'écosystème de la santé, à avoir les ressources autour d'eux, l'environnement, qui fait qu'ils arrivent finalement à obtenir un rendez-vous orthophonique. Le délai d'attente est tout de même long, mais ils arrivent davantage que les personnes qui sont issues de milieux socio-économiques plus défavorisés. Les injustices sont vraiment creusées par ce type de difficultés rencontrées.
De la maternelle au CE2, c'est l'errance. Et c'est beaucoup d'énergie et de temps et d'argent. Jusqu'à ce que, je pense que ça doit être en fin de CE1, on a une réunion à l'école avec l'équipe enseignante et la psychologue. Et elle me dit, écoutez, si vous voulez, il y a un centre, mais c'est plutôt pour les familles en difficulté. Je dis, ah bah moi, je suis mère célibataire avec trois enfants, mais en garde alternée. Moi, oui, je pense que là, on est en difficulté. Enfin, j'envoie un dossier et je suis contactée assez rapidement. Et là, bah effectivement, les choses vont beaucoup plus vite. On refait quelques bilans. On rencontre donc le docteur Pradel, qui est un médecin qui est spécialisé dans le spectre global des troubles de l'apprentissage. Ce qui, pour moi, est une évidence, en fait. Et pour la première fois, j'ai quand même quelqu'un qui regarde mon enfant, qui me demande son planning global. On a un planning délirant de praticien et... Elle regarde mon enfant et elle me dit, mais elle est épuisée, c'est trop. On arrête tout, on voit un psy, parce que par contre, la priorité pour le docteur Pradel, à ce moment-là, c'est la confiance en soi de ma fille. Donc par contre, elle a un problème de confiance en elle, elle se dévalorise, elle est extrêmement fatiguée et elle est triste.
Je suis toujours frappée quand je vois un enfant en consultation, par l'importance souvent des difficultés retracées par ses parents.
Domitil Gras, neuropédiatre.
À savoir beaucoup de consultations différentes, beaucoup d'avis différents, beaucoup de conseils donnés différents, qui fait que souvent les gens sont extrêmement stressés et assez perdus. Il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires qui peuvent être données, ce qui majore énormément l'anxiété parentale et qui est assez culpabilisant, puisque un parent peut suivre un conseil et puis après on va lui dire « mais comment ça se fait que tu as fait ça ? C'est vraiment la mauvaise chose à faire ?» Et ça, c'est très, très problématique. Je pense qu'une partie de cette errance est liée à la complexité des troubles du développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui est confronté à des troubles 10 est un enfant qui risque d'avoir plusieurs troubles associés. Et il y a un risque que lorsqu'il est face à une personne, cette personne va peut-être réagir face à une partie des difficultés de l'enfant et tout va être focalisé dessus et biaiser le reste du parcours.
Il manque des formations, je dirais, à plusieurs niveaux.
Michel Mazot, médecin de rééducation.
Alors, au niveau des enseignants, au niveau des médecins, au niveau des rééducateurs, au niveau de tout le monde. Alors, je dirais que c'est pas étonnant, si vous voulez, dans la mesure où l'essor des neurosciences cognitives, c'est 2000 ans. On est en 2025, alors vous allez me dire 25 ans peut-être, mais non. C'est pour que ça pénètre, si vous voulez, dans une société, c'est long, les nouvelles idées. Hein. Donc, voilà, il faut révolutionner l'enseignement des enseignants, il faut révolutionner l'enseignement des rééducateurs et des médecins. Parce que les médecins eux-mêmes, le médecin généraliste, le médecin de famille, le médecin de PMI auquel s'adressent les parents, ne connaissent pas ces pathologies. Donc, ils ont tendance à dire, bon, ça, c'est l'école, c'est pas mon affaire. Ou bien, oh, il est encore petit, laissez-le grandir. Ou bien, oh, écoutez, il a eu des problèmes dans la naissance, il était un peu préma, c'est un peu normal, vous inquiétez pas, etc.
On a toujours les enfants qui parlent un peu plus tardivement que d'autres. Ça existe aussi. Hein. Il faut pas non plus, il n'y a pas lieu de s'alarmer tout de suite, mais... En tout cas, entre 2 et 4 ans, il y a déjà tout un tas de signes qu'on peut identifier chez certains enfants. Et je vais même aller plus loin sur les troubles de la communication. On peut souvent identifier des indices encore plus précocement, et déjà à 12 mois, 18 mois, un professionnel de santé qui est formé, il est en capacité de repérer des indices chez ces enfants-là et de se dire « mais là, il y a quelque chose qui m'inquiète, on va aller tout de suite investiguer et tout de suite soutenir ». C'est un peu le principe de certaines plateformes de coordination et d'orientation, les PCO. Le fait d'avoir cette prise en charge précoce, on va dire, c'est quand même l'objectif, c'est de faciliter, d'améliorer le délai, justement, de prise en charge de ces enfants-là. France
Info. Bonsoir à vous, Fadila Khattabi.
Bonsoir.
Que prévoit la nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, d'ailleurs avec un plan qui va aller jusqu'en 2027, si j'ai bien compris?
Tout à fait, un plan tout à fait ambitieux dans le cadre de cette deuxième stratégie et avec un investissement inédit puisqu'il est de 680 millions d'euros. Donc nous poursuivons effectivement l'accompagnement de tous les troubles de neurodéveloppement. Avec notamment la création d'un grand service public, donc qui dit service public dit gratuité, pour mieux repérer effectivement tous ces troubles entre 0 et 6 ans. Et on le sait, quand on diagnostique très tôt, eh bien, il y a une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement.
La volonté, c'est celle-là, c'est de prendre précocement les enfants en charge. Donc il y a une plateforme 7-12 ans et une plateforme vraiment pour les plus jeunes en dessous de 6 ans. Mais finalement, ce que ça permet, c'est en effet d'avoir un réseau de psychomotriciens, d'ergothérapeutes et de psychologues. Ces trois professions-là sont conventionnées avec les PCO, sont payées par les PCO. Et donc, évidemment, ça permet un accès à ces trois professions qui est facilité.
Pendant un an.
Il est facilité pendant donc un an, voire deux en fonction. Mais au moins, il est facilité financièrement parce qu'effectivement, ces professions n'étant pas conventionnées, sinon, c'est à la charge du parent uniquement. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, ça offre une prise en charge précoce pour ce qui est de ces professions-là. Mais du coup, effectivement, pour tous les patients qui nécessitent aussi des soins sur le langage ou la communication, ça répond pas à la question. La seule réponse à cette question-là, c'est la formation de davantage d'orthophonistes.
En 2025, il y a en France environ 180 plateformes de coordination et d'orientation, les PCO. Sur le papier, le modèle est prometteur, mais dans la réalité, elles sont largement saturées et l'accès est très variable selon les départements. Alors, lorsque les besoins dépassent le cadre des PCO, qu'il s'agisse de soins inscrits dans la durée, d'aménagement scolaire, le recours à la maison départementale des personnes handicapées devient incontournable. Puisque c'est elle qui va conditionner l'accès aux mesures de compensation, aux aides financières et aux aménagements scolaires nécessaires. Dans un système organisé à l'échelle départementale, les prises en charge varient fortement à handicap équivalent. Les droits accordés ne sont donc pas les mêmes que l'on vive à Bordeaux ou à Lens. Cette disparité territoriale introduit une inégalité qui s'ajoute au poids du handicap lui-même. Aujourd'hui, les familles doivent donc naviguer dans un système fragmenté où la qualité de l'accompagnement dépend encore largement du département de résidence, mais aussi de la capacité à tenir dans la durée, à relancer, à insister, à ne pas s'épuiser en chemin.
C'est une amie de ma sœur qui me dit que c'est que le début d'un long parcours, elle me dit, et elle me dit « si j'étais toi, je demanderais une reconnaissance de handicap ». Donc je vais chercher le dossier, je vois que le dossier il est comme ça.
Et ça, c'est-à-dire
il est très épais, voilà. Et puis je me rends compte que bah, c'est le même dossier pour la personne qui est aveugle, à qui manque une jambe, un bras, voilà, adulte, enfant. Et là, je vais à la maison départementale pour voir une assistante sociale qui ne m'aide pas du tout, qui me redonne juste les mêmes papiers en me disant mais vous devez remplir ça, ça, ça avec des croix et pff, voilà la galère. Donc là, ben, j'ai fait appel à une amie qui a aussi un petit garçon qui est handicapé et qui propose de m'aider. Je l'envoie au mois de décembre, voilà. Et on me dit, ben, dans 6 mois, vous aurez un retour. Donc là, j'ai une réponse début juin négative. Donc 6 mois quand même. J'ai demandé ben, des aides pour pouvoir faire de l'ergothérapie en me disant ben, il va falloir quand même qu'il apprenne à taper sur l'ordinateur et il va avoir besoin quand même d'être un peu plus rapide, toujours en vue de la sixième, hein, toujours anticipé. Donc là, je me dis, le bilan, comme le dossier est refusé, il faut que je rajoute une pièce. Si je contexte, il faut quand même que je rajoute une pièce.
Mais vous devez refaire un bilan, mais vous n'avez pas des bilans que vous pouvez transmettre?
Les organismes demandent que les bilans datent toujours de moins de 2 ans.
Mais les troubles sont durables.
Mais les troubles sont durables, on est d'accord. Et une dyslexie ne disparaît pas. Un trouble de l'attention ne disparaît pas. Mais on est quand même obligé de les refaire. de ressortir de fin d'école, de le ramener chez le spécialiste, de refaire 5-6 séances, de repayer 400 euros, de devoir me réorganiser dans le travail, de devoir le caler à un moment où je suis pas en déplacement professionnel, et de jongler encore autour de tout ça, oui.
Et dans ces semaines, la semaine la pire en rééducation, il a eu quoi? Parce qu'il avait un suivi psy aussi en même temps?
Alors non, après, j'ai pas pu tout faire en même temps. Alors déjà, parce que avec le boulot, c'était pas possible. Et puis pour lui non plus. Enfin, j'aurais pas pu mettre, ça m'est arrivé, mais sur 2 mois, mais de mettre le psychologue, l'orthophoniste, de mettre en plus de ça une autre séance de rééducation. Mais c'est ce que je disais à la MDPH à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, cet enfant, tout le temps où il aurait pu jouer, il l'a passé chez les médecins, on lui a un petit peu volé tout ça, quoi. Et on peut pas surcharger les journées d'un enfant comme ça. Donc voilà, quand j'ai fait en sorte d'alléger quand même pas mal.
Le poids du système actuel français repose directement sur les parents et sur les mères en particulier. Et malheureusement, on voit très très souvent des mères en burn-out, en épuisement parental, parce que en fait, elles sacrifient totalement leurs propres besoins et qu'elles s'épuisent à essayer de courir, de sortir l'enfant de classe, de courir à l'orthophoniste, de le remettre. Il y a un impact fort aussi sur leur vie professionnelle, hein, en général, avec des mamans qui réduisent énormément leur activité à cause de ça. Et donc, c'est vraiment un très très gros problème.
On sait que le coût va être énorme. Donc en fait, les parents, ils vont pas pouvoir aller travailler, ils vont pas pouvoir, souvent les mamans d'ailleurs, hein, on est quand même sur quelque chose de très discriminant aussi au sein de la famille. On va même avoir des parents qui vont se séparer parfois, parce qu'en fait, avoir un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement grave, c'est extrêmement difficile de vivre au quotidien là-dedans. Mais également les fratries, les frères et les sœurs, des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement grave, en fait, c'est extrêmement difficile de se construire avec un frère ou une sœur qui est dans cette situation. Donc ça a un impact dans la société qui est énorme. Et on parle encore une fois de 5 à 7% des enfants qui sont dans cette situation de TND. Donc vous imaginez, à chaque fois, on parle de leur famille, on parle de leurs amis, du milieu scolaire. Et plus on va grandir avec un sentiment d'échec, plus les troubles associés sont fréquents. Donc on peut avoir donc perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, voire même dépression. Hein. On peut aller ou phobie scolaire à terme, bien entendu. C'est quand même un très grand classique. Il peut y avoir des troubles du sommeil, de l'anxiété. Enfin, on a quand même beaucoup de troubles associés qui sont très fréquents. Et puis ensuite, on va avoir le plus grand mal, à savoir quelle est la poule et l'œuf entre les troubles anxieux et le trouble du langage. On va être dans des situations vraiment où les choses sont trop imbriquées. Et plus ça prend racine, et plus c'est difficile ensuite pour nous, orthophonistes, et pour l'enfant surtout, de passer au-dessus de tout ça. Et donc, quand on se retrouve au bout de quelques mois vraiment dans une difficulté qui nous semble un peu sclérosée, un petit peu difficile, on va faire appel à un centre de référence des troubles du langage et des apprentissages pour pouvoir dénouer un petit peu la situation et permettre une meilleure compréhension.
Là, on est au centre référent du trouble des langages des apprentissages du Kremlin-Bicêtre. On va remonter encore.
Bonjour. Pour le docteur Dominique Gras, il faut monter. Merci.
Bonjour, donc je suis Lise Mérel, je suis l'éducatrice spécialisée. Moi, je coordonne un petit peu ce qui se passe ici. Le docteur Gras est le médecin-chef du service. On a une directrice du centre scolaire qui s'occupe des enseignants. On a une petite infirmerie et les enfants en fait vont bénéficier tout au long de la journée de rééducation. Donc chaque rééducateur a son propre espace, son propre bureau. Elles viennent chercher les enfants au sein de la classe et les enfants font des allers-retours en fait entre la classe et les séances de rééducation. Oui, tout est sur place. C'est à quelques mètres, exactement. Et donc en moyenne, ils ont 4 séances d'orthophonie par semaine pour la rééducation en français, on va dire. Ils peuvent avoir de la rééducation en logico-mathématiques. Ils peuvent avoir de la psychomotricité, de l'ergothérapie et aussi on a 2 psychologues qui sont chacune référente d'un enfant. Enfin, tous les enfants sont suivis par une psychologue. Les enfants viennent tous les jours de 8h30 à 16h15 et le mercredi aussi, malgré que les enseignantes ne soient pas là le mercredi. L'équipe soignante, une personne de la mairie de Paris qui nous aide et moi-même, on fait des ateliers avec les enfants pour permettre la continuité de la rééducation. Idem pendant les vacances où les enfants sont accueillis accueilli la moitié des vacances scolaires. C'est-à-dire qu'ils ont un rythme plus soutenu qu'un enfant scolarisé en milieu ordinaire, puisque eux font une semaine de plus à chaque vacances, sauf à Noël où ils ont le droit d'avoir 2 semaines de repos, et l'été ils terminent 2 semaines après.
Et c'est quel type d'activité le mercredi ?
Alors moi je vais faire de la cuisine et mes collègues vont faire des activités plutôt sur le versant créatif. Alexis, tu vas poser tes affaires déjà.
Mais je serai dans quelle classe ?
Bah t'es réparti chez qui d'habitude quand t'es
enflammé ?
Bah regarde sur le... ça doit être marqué quelque part.
J'ai 11 ans. Mes parents ils ont fait beaucoup de choses pour que je vienne ici.
Alors ici on est où ?
L'hôpital.
C'est un hôpital un peu particulier ici.
Oui. On apprend bien. Et aussi, on a des orthophonistes qui viennent tous les jours. Au départ, j'avais un trouble de l'attention et je pouvais pas m'asseoir, en fait. J'arrivais pas à rester assis. Je vais bouger partout. Je pouvais pas rester que assis et rester en train de travailler. Je devais faire des jeux ou des pauses. C'est pour ça ici, je suis venue pour ça. Et j'ai bien progressé. Avant, je pouvais pas lire et écrire. Et maintenant, j'arrive à lire et écrire. Je suis dyslexique, mais il y a des mots que je mélange et tout ça. Mais maintenant, j'arrive mieux et grâce à ça, bah, j'arrive à travailler et voilà. Par exemple, j'ai mélangé le B et le D. M et N un peu, mais pas trop.
T'as des gestes pour M et N ?
M et N.
Avec tes doigts ?
Oui.
C'est-à-dire, quand c'est M, tu mets combien de doigts sur la table ?
3.
Ouais.
Et quand c'est N, je mets 2.
Donc tu lis ?
Oui, je lis beaucoup. Et maintenant, j'aime bien lire. Avant, j'aimais pas ça.
Alors, vous allez prendre une page toute neuve dans le cahier et on va commencer par le titre. Le titre, on l'écrit au milieu. Bon, bah, c'est parti. Alors, les, qu'est-ce que c'est ? Orange. Orange, c'est quoi ?
Déterminant.
Donc, les... Awa, t'es avec nous ? Ou t'es avec les toupies ? Awa, stop les toupies. Merci. 3, qu'est-ce que c'est ?
Alors, on est ici, en fait, dans la partie de l'unité avec les classes pour nos enfants. Donc ici, on a 35 enfants dyslexiques.
Domitil Gras, neuropédiatre.
Concernant les critères de choix, c'est un dilemme non résolu compte tenu de la prévalence élevée du trouble du langage écrit. Finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de favoriser l'admission des enfants qui ont des dyslexies donc particulièrement sévères et qui ont des troubles multiples qui rendent la rééducation pluridisciplinaire tout à fait pertinente. Du fait de leur sévérité de leur dyslexie, ils cumulent 3, 4, 5 troubles du neurodéveloppement, notamment le trouble déficit de l'attention hyperactivité, parfois un trouble du développement de la coordination ou dyspraxie, parfois donc compliqué de troubles visuospatiaux, et beaucoup, beaucoup ont un trouble du développement du langage oral.
La grammaire de la phrase et qui des espaces, du coup, ils savent maintenant qu'il y a un espace entre chaque mot. C'est parti, vous pouvez commencer à écrire, vous écrivez le titre au milieu.
Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup d'enfants qui ont des conditions socio-économiques précaires, pas tous, mais beaucoup. Et je pense que c'est important de les favoriser parce qu'on sait que si on a une maman ou un papa non francophone, par exemple, bien pour faire toutes les démarches d'accès aux soins, malheureusement, c'est double peine et c'est beaucoup plus compliqué pour ces familles. Et donc, pour nous, c'est un critère vraiment de pouvoir les favoriser tout à fait pertinent et assumé parce qu'on connaît bien les inégalités dans ce domaine, dans le champ d'accès aux soins pour les enfants.
Alexis, imagine que je vais vous coller l'image ici, d'accord ?
L'alouette.
Sur la mousse ou sur le toit.
Sous la mousse ou sur le toit.
Dans les haies vives ou le chêne fourchu.
Dans les haies vives ou le chêne fourchu.
Le printemps a mis ses nids.
Le printemps a mis ses nids.
Le printemps a mis au bois.
Annie au bois.
Annie a mis.
Annie a mis.
Du renouveau, c'est le doutant.
C'est le doutant.
Annie.
Annie. Annie.
Au bois joli.
Au bois joli.
Gamine le pinson.
Gamine le pinson.
Dans les buis.
Dans les buis,
gîte
une biche au bois chantant.
Annie,
Annie, Annie, au doigt joli, une églantine laisse du sang. Au bout du temps des féeries, viendra l'ennui.
Je m'appelle Pauline Mérienne, je suis orthophoniste depuis 2008. Moi, quand même, mais c'est vraiment très propre, hein, parce que je pense que chaque orthophoniste fait avec ce qu'elle est, ou ce qu'il est, pour les rares hommes, c'est que maintenant, j'essaie vraiment plus de comprendre l'enfant, et de comprendre ce dont l'enfant a besoin avec ses fragilités. Je pense que quand je suis arrivée dans le service, pour moi, bah, j'avais quand même une idée de comment on travaille le langage écrit. Mais j'avais mon cheminement à moi et grosso modo, j'avais envie que l'enfant suive mon cheminement. Mais en fait, ça se passe pas comme ça parce que l'enfant, lui, il a ses propres limites et puis il me connaît pas. Et généralement, il a une confiance abîmée envers les adultes parce que justement, il a pas su répondre aux exigences de l'école. Et moi, ce qui a beaucoup évolué, c'est de créer une alliance thérapeutique. Parce qu'on ne peut pas attendre de l'enfant qu'il se rende compte par lui-même qu'il faut qu'il fasse tout ça parce que c'est pour son bien plus tard quand il sera adulte. Ça reste très abstrait pour eux. Apprendre à lire et à écrire, c'est quand même quelque chose de très scolaire dont ils n'ont pas vraiment besoin dans la vie de tous les jours, à part à l'école. On a besoin de leur motivation pour pouvoir avancer. On a besoin que l'enfant ne soit pas passif.
Est-ce que vous faites toujours passer le test de l'Alouette ?
Oui, nous faisons toujours passer le test de l'Alouette. Parce que c'est un test de référence, on sait qu'il est robuste, que les résultats sont fiables. Nous faisons passer l'Evaleo 6-15, qui est une batterie pour évaluer le langage oral et le langage écrit, et qui a l'avantage de couvrir une grande période, donc de 6 à 15 ans, du CP à la 3e. Donc ça permet de quand même voir l'évolution en utilisant la même batterie.
Ça consiste en quoi ces tests ? Qu'est-ce que vous évaluez à ce moment-là, notamment par rapport au test, de l'Alouette ? Il est quand même assez incompréhensible. Hein ?
En fait, il permet de vraiment apprécier la qualité du déchiffrage sans qu'on puisse vraiment mettre en place des moyens de compensation pendant la lecture. Parce que c'est un texte avec des vrais mots, mais qui n'a pas vraiment de sens. Donc, l'enfant est obligé de lire mot après mot. Alors qu'un enfant qui lit un texte narratif, par exemple, eh ben, il y a des mots qu'il ne va pas réussir à déchiffrer, mais comme il comprend le sens, le début de la phrase, le reste de l'histoire, il va réussir à contourner ses difficultés et à lire quand même. Dans cette batterie, on évalue aussi la lecture de mots seuls, des mots qui existent, des mots qui n'existent pas, parce qu'on utilise deux voies de lecture pour lire, la voie de déchiffrage, où vraiment on lit les mots en les décomposant, on fait les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, et la voie d'adressage, où là on va plus reconnaître les mots parce qu'on les a lus un certain nombre de fois et on les a mémorisés. Donc ça permet de lire plus vite. Un lecteur adulte utilise essentiellement la voie d'adressage, et seulement pour les mots qu'il n'aurait jamais rencontrés, dont il ne connaît pas la signification, il va utiliser l'assemblage, où là, il va vraiment décomposer.
Alors donc, premier morceau de problème. 23 coureurs franchissent la ligne d'arrivée. Le deuxième morceau, 9 coureurs ont abandonné au cours de l'épreuve. Alors, est-ce que ça se passe en même temps ou l'un après l'autre ?
L'un après l'autre ?
Ouais. Ok. Est-ce que tu peux le mettre dans l'autre ?
Marion Blard, vous êtes une des orthophonistes du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages du Kremlin-Bicêtre, et vous êtes spécialisée en cognition mathématique, ce qui est rare.
Oui, on n'est pas très nombreuses, hélas.
Alors comment vous leur faites appréhender les nombres ? Comment ça se passe, la rééducation des chiffres ?
Que ce soit pour le langage oral, le langage écrit ou les maths, on essaie de passer le plus possible par le jeu et par la plurimodalité. C'est-à-dire que ce qui est important pour ces enfants-là, c'est de manipuler beaucoup, de faire le lien entre ce qu'ils font en manipulation et puis la notion travailler pour que petit à petit ça prenne sens en fait. En fait, le jeu, c'est vrai qu'en orthophonie, c'est quand même un peu central parce que déjà, c'est les enfants qui sont en échec dans les apprentissages à la base, donc qui ont un peu baissé les bras. Donc en fait, si on les leur donne pas l'envie de réapprendre, en fait, ils vont pas spontanément s'y remettre, donc il faut les surprendre en fait. Donc que ce soit par le jeu, que ce soit en faisant quelque chose qu'ils pensaient ne pas savoir faire, mais qu'ils arrivent finalement à faire avec des aides, et en fait ils prennent conscience que finalement ils sont pas si mauvais que ça, et qu'ils ont des compétences, et en fait c'est vraiment ça qui est le socle pour après les aider à progresser au fur et à mesure. Donc en fait c'est vraiment pouvoir mettre du sens sur, effectivement, enfin... Qu'est-ce que ça veut dire 23 en fait ? Parce que 23 pour eux, ça pourrait être 5, ça pourrait. Enfin, en fait, et c'est vraiment en mettant justement, en manipulant et en voyant ce à quoi ça correspond. Chaque enfant va être plus sensible à une aide plus qu'une autre. Hein. On propose plein d'aides différentes et on voit celle avec laquelle il accroche. Ben, y en a qui vont plus, effectivement, les billets, ça va plus les aider. Les autres, c'est vraiment les cubes qui vont les aider. Les autres, c'est on va mettre une grande ligne et puis on va essayer de placer les nombres. En fait, il y a plein de façons d'aborder la quantité et on va voir ce avec quoi ils accrochent au fur et à mesure. Pour que, à un moment, ça fasse tilt, en fait, pour eux.
3 plus 9.
Mm-hmm. Exactement. On peut revenir en arrière et faire comme si, donc, hop, on les remet donc, à la ligne d'arrivée, ceux qui sont partis.
Bah, là, on peut faire ça, on garde le 2, c'est la dizaine, mais on rajoute 3, 9.
Donc, tu veux faire le calcul 23 plus 9, c'est bien. Alors, tu...
Je compte avec mes doigts. Compliqué.
Très bien, tu l'as fait directement.
Oui, non, c'est bon.
Ouais.
Il dit non avec la tête, mais il dit waouh.
Oui.
Oui, avec le creux, le cœur.
Merci à Michel Mazot, Franck Ramu, Stanislas Dehaene, Sarah Di Giovanni, Noémie Tilgras, Marion Blard, Pauline Mérienne, Florence, Esther, Céline, Marianne, Alexis et l'équipe du Centre référent des troubles du langage et des apprentissages du Kremlin-Bicêtre.
Ça va faire la troisième année, la troisième édition, où là, les orthophonistes sont en lien avec vraiment des anciens qui ont aujourd'hui 25 ans, par exemple, qui sont insérés dans le milieu professionnel et qui viennent rencontrer les enfants, faire des petits échanges dans les classes pour discuter un peu de leur parcours ici, de ce que ça leur a apporté et de leur vie aujourd'hui. D'après ce qu'ils disent, ça a été les meilleures années de leur vie. Et puis, surtout, c'est ça, on change le pronostic quand même social et scolaire. Un enfant qui est non lecteur, non scripteur dans un établissement scolaire, le fait de pouvoir bénéficier de nos structures va lui permettre de ressortir avec une lecture fonctionnelle. Il va garder ses troubles, ça va pas disparaître, mais en tout cas, ça va lui permettre quand même d'entrer dans la lecture. Donc, de pouvoir se débrouiller, de pouvoir suivre une scolarité un peu plus adaptée et de pouvoir s'insérer après, plus tard. C'est quand même notre objectif aussi.
Parce qu'après, ils repartent dans une filière classique.
Alors classique, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enfants qui vont retourner à l'école avec soit un dispositif ULIS, soit un dispositif SECPA et REA, soit en collège avec une AESH. Ça dépend vraiment du profil des enfants et de leur évolution sur la période qui passe ici.
Il dit oui à ce qu'il aime.
Lecture, Nathalie Canouy, Hélène Losseur et Olivier Martineau. Archivina, Véronique Jolivet. Prise de son, Guillaume Ledu, Benjamin Vignal, Lucien Lefebvre, Maël Larfassor, Bruno Mourlan, Philippe Thibault. Mixage, Éric Boissé.
Sur le tableau n'est plus l'heure, il de
chargé de programme,
dessine,
Marie-Bonne Abolivier et Anaï Morales.
Visage,
coordination
du
Emmanuel Laurentin.
Cœur du bonheur,
Trouble 10, des vies à inventer. Un documentaire d'Elvire Cassan, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.